ceux que je n'ai pas vus, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour, même le tour, c'est bien. Ah là là, quelle joie d'être là. Donc, on a passé un bon temps la semaine dernière avec Mathieu qui nous a parlé sur la communauté. Et on va continuer donc cette série de prédications sur le livre des Actes, que d'ailleurs je vous encourage vraiment à lire. Moi, je l'ai lu en entier là récemment et ça fait du bien. Parce que le livre des Actes, c'est, les amis, ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Et parfois, quand on voit des grands fossés, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire, pétard, mais c'est, je ne vis que le quart ou que le dixième ou que 1% de ce qu'ils vivaient, mais ça doit nous encourager et nous dire si eux, parce qu'eux, ils n'étaient pas des hommes extraordinaires, ils n'étaient pas mieux que vous et moi, c'était des êtres humains que Dieu avait créés, qu'il avait choisis, comme vous, comme moi, mais qu'il a choisi d'utiliser. Et avec leur faiblesse, avec leur force, ils se sont levés et ils sont allés au nom de Jésus. Et c'est pour vous encourager, moi, ça m'a chamboulé, franchement, de relire ces actes, de relire chaque chapitre et de voir les miracles et les prodiges qu'ils ont performés au nom de Jésus. C'était pas de leur propre chef, mais c'est par le nom de Jésus qu'ils ont vécu des trucs de fou. Et moi, ça m'a chamboulé, je me dis, mais waouh, Seigneur, j'ai envie que cette ville de Montélimar, j'ai envie que ma famille, qu'à mon travail, que dans toutes les sphères de la société, que le nom de Jésus soit proclamé et qu'on puisse voir des guérisons, qu'on puisse voir des miracles, voir des vies transformées, des personnes qui se donnent à Christ. Et je sais que c'est ce que nous allons voir dans cette année 2018. Je le déclare parce que je sais que c'est l'année du jubilé, les amis. C'est l'année du jubilé où nous allons voir des conversions, voir des personnes qui se repentent et qui se donnent à Christ. Alors, préparez-vous, parce que ça ne fait que commencer. Ce livre nous raconte la vie des premiers chrétiens, donc suite à la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Fils de Dieu. Donc je vous disais que Matthieu nous a parlé la semaine dernière sur plein de choses, mais particulièrement sur l'importance d'être en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs en tant qu'Église, parce que nous avons une mission. Et il n'y a qu'ensemble que nous pouvons l'accomplir. Et Matthieu a vraiment insisté sur le fait que seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on peut aller très loin. Et Matt nous a aussi parlé vraiment de ce jour de la Pentecôte. Rappelez-vous où tous ses disciples étaient dans la chambre haute. Jésus leur a dit, attendez, car je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Lui vous révélera les secrets du Père. Et ils étaient assemblés dans cette chambre haute et tac, le Saint-Esprit est descendu. Et là, des langues de feu sont descendues sur chaque disciple et ils parlaient dans des langues et vous connaissez la suite. Mais moi, je veux surtout aller encore plus loin parce que Matt nous a parlé que après ça, Pierre s'est levé inspiré par l'Esprit. Il a vraiment prêché l'évangile et 3000 personnes se sont données à Christ. Hein, vous vous souvenez de ça? Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte que ça n'a été que le commencement. Parce que juste le chapitre d'après, c'est acte 3, verset 1. Je vous invite peut-être à le prendre et puis à le lire puisqu'on n'a pas la technique. Parce que c'est vraiment important, on va s'arrêter sur plusieurs versets. Mais juste après donc, que ces 3000 personnes aient été ajoutées à la communauté, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. C'est incroyable. Et c'est que le début, parce qu'on va ensuite voir tout ce qui va en découler. C'est incroyable. À ce moment-là, donc là je paraphrase hein, pour gagner un peu de temps, mais vraiment je vous invite à le lire tranquillement, c'est extraordinaire. Chaque phrase, chaque verset est riche. À ce moment-là, Pierre prend la parole et rappelle au peuple que ce n'est pas par leur piété qu'ils ont fait ce miracle, mais par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il commençait à dire, Pierre et Jean, waouh, ce sont des dieux, ce sont ci, ce... Non, il a dit non. Pourquoi vous étonnez-vous? Ce n'est pas par notre piété que nous avons fait ce miracle, mais par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et il est dit un peu plus loin dans Acte 4 que le nombre de croyants fut porté à 5000. Donc si je résume, moi qui suis expert comptable, ça veut dire que notre cher Pierre, en deux prêches, il a fait 5000 convertis, 5000 croyants, inspirés par le Saint-Esprit. Et là, c'est juste incroyable. Parce que on voit qu'à chaque fois, c'est Pierre, ou peu importe, hein, je m'arrête sur Pierre parce qu'on parle de Pierre, mais c'est Pierre, c'est chacun d'entre nous, inspiré par l'Esprit, il se lève et il annonce l'Évangile. Et là, de suite, il y a des fruits. 3000 une fois, 2000 personnes qui se donnent à Christ. Et moi, ça m'a de suite parlé, je dis « Waouh !» J'ai dit « On a tellement besoin d'être inspiré par l'Esprit. » Quand on est visité comme ça, il y a une assurance qui vient et on parle et bam, ça vient directement pénétrer le cœur. Même les cœurs les plus endurcis sont touchés et un grand nombre se donne à Christ. Et parfois, c'est vrai qu'on aimerait avoir cette même foi et cette même audace. Et c'est pour ça que j'insiste bien de ne surtout pas tomber quand vous allez lire chaque verset, chaque chapitre. Surtout, n'ayez pas ce raisonnement qui n'est pas bon, les amis, de se dire « Ah, mais pff, ça, c'était il y a 2000 ans. Ah, mais ça, pff, moi, jamais je pourrais y arriver. Ah, mais moi, ne tombez pas dans la pitié de soi, dans le décourageant, de dire « Ah, mais ça paraît tellement impossible. » Parce que c'est bien écrit. Cette foi n'est pas venue d'eux-mêmes. Ce n'est pas par leur piété, ce n'est pas parce que tous les jours, ils priaient 5 heures, bien que ça serait génial. Hein, Dieu nous encourage à prier, mais ce n'était pas par leur piété, ce n'était pas par leur propre force, mais c'était par la foi en Jésus-Christ. Et ce don de foi, Dieu nous le donne à chacun d'entre nous, vous et moi. Et aujourd'hui, je vous le dis, je ne suis pas fou, mais nous pouvons aussi, remplis de l'Esprit, inspirés de l'Esprit, se lever et annoncer l'Évangile. Et il peut y avoir 3000 personnes qui se donnent à Christ, même plus. Et donc on le voit dans plein de pays, et je prie que ça arrive en France, voir des dizaines de milliers de personnes qui se donnent à Christ. Alors qu'un prédicateur se lève, inspiré par l'Esprit, qui annonce l'Évangile, et cela, parce que ce n'est pas nous qui convaincons les gens, c'est le Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs. Et on a besoin de réaliser à nouveau, moi le premier, que ce n'est pas, que c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et de réaliser qu'on a besoin d'être continuellement rempli de l'esprit. Parce qu'on peut faire le tour du monde, on peut aller dans toutes les rues, par nos propres forces, on va s'épuiser, on va se fatiguer, et à mon avis, on portera très peu de fruits. Parce que ça sera par nos propres forces. Mais inspiré par l'esprit, une fois, une prédication, un mot, un sourire, peut changer une vie, peut changer des milliers de vies. Et je veux vraiment vous encourager, allons puiser à la source du salut. Allons puiser à la source, il n'y a que lui qui peut nous remplir. Il n'y a que lui qui peut nous donner les paroles qu'il faut, les paroles de connaissance, les prophéties. Rappelez-vous ces paroles de Paul qui dit que quand on prophétise vraiment et qu'on révèle les secrets du cœur, alors la personne qui reçoit ces paroles tombe à genoux et loue le Seigneur parce que son cœur est dévoilé. C'est ça que nous avons besoin de voir. C'est de voir des vies transformées, pas simplement des personnes qui disent « je crois », mais des personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu. Et j'ai réalisé vraiment, Dieu m'a vraiment touché et m'a rappelé des fondamentaux mais que l'on sait, mais qu'on a besoin des fois que ça soit un peu dépoussiéré, de revenir à la source. Et je sens qu'on est dans une saison, enfin en tout cas moi avec deux enfants, puis je sais que tous ici quasiment... on a soit des enfants, soit un travail, soit beaucoup de choses qui nous prennent beaucoup de temps. Et c'est facile d'être happé par la vie. Et si, et ça, et là, et là. Et vraiment, je sens que c'est un appel, pas simplement pour chacune de nos vies, mais pour l'Église Connect et pour l'Église avec un grand E, de s'arrêter et de revenir à la source, de venir vraiment se reposer, travailler à son repos, de se reposer vraiment dans celui qui peut tout. Et quand on fait les choses d'une place de repos, ça change tout, les amis. Moi, je l'ai vu combien de fois, j'ai conduit la louange, et des fois, j'essayais d'entraîner le peuple, j'essayais par mes propres forces, je disais, pétain, mais ils vont louer, quoi. T'essayes de, tu prends des chants dynamiques et machin. Mais vraiment, pendant ces deux années qu'on a passées en Angleterre avec Hello, Dieu nous a parlé de tout faire d'une place de repos. Et à chaque fois que je conduis la louange ou quoi que je fasse d'une place de repos, c'est le jour et la nuit. Parce que c'est plus moi qui force, c'est plus moi qui agis, mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui envoie sa gloire. C'est Dieu qui envoie sa présence. Alors, rappelez-vous ça, faisons tout d'une place de repos. Rappelons-nous que la foi, c'est l'un des 9 parties du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La foi fait partie de ce fruit de l'esprit. Vous voyez ? Donc quand on est rempli de l'esprit, il y a la foi, il y a l'assurance. Assurance, foi, fidélité, vous savez, c'est presque le même mot. Foi, fidélité, même il y a certaines traductions où donc à la place de foi, c'est fidélité, ou ça peut être assurance. Vraiment, quand on est rempli d'esprit, la foi est là. Et d'où l'importance d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et Éphésiens 5, verset 18, nous dit « Soyez constamment remplis de l'Esprit ». Et il y a une version sympa qui paraphrase, qui dit « En parlant les uns aux autres, par des psaumes et des hymnes et des chants spirituels, chantant et psalmodiant le Seigneur de votre cœur, rendant grâce toujours en toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et on voit que pour se nourrir, pour donner des pistes concrètes, mais je sais que chacun d'entre vous sait, mais c'est important de se le rappeler, revenir à la source, c'est revenir à la parole de Dieu, de se nourrir et de s'entretenir par des hymnes, par des cantiques, par des chants spirituels. La louange, je vous dis franchement, ce n'est pas que pour ceux qui chantent juste. Ce n'est pas que pour ceux qui savent jouer d'un instrument. C'est pour chacun d'entre nous. Si tu chantes faux, si tu n'aimes pas chanter, ben mets un CD de louange. Que la louange soit continuellement dans notre maison, continuellement dans notre voiture, continuellement dans notre bouche. C'est ce que David dit, que Seigneur, ta louange sera toujours sur mes lèvres. Et que cette louange vraiment soit toujours là, à proclamer combien Dieu est bon, combien il est merveilleux. Parce que ça fixe nos pensées sur ce que Dieu fait. Ça fixe nos pensées sur la grandeur de Dieu, sur que rien n'est impossible à lui, plutôt que sur nos circonstances. Et c'est incroyable. Ça fait, je dirais, quelques mois, voire peut-être un an. J'aime bien lire le Figaro, lire un peu les nouvelles ou quoi. Mais franchement, j'ai presque arrêté. Parce que quand on lit, c'est toujours des guerres, des machins, des trucs. Et c'est bien de se tenir informé. Mais il y a un moment, je me suis rendu compte que ça crée plus en moi de la peur, plus du découragement. Que s'informer, c'est bien, mais franchement, nourrissons-nous vraiment de ce qui donne la vie. Et moi, maintenant, j'essaye d'écouter les prêches, de mettre la louange, de proclamer vraiment combien Dieu est bon. Et quand j'arrive au boulot, ça me donne la patate de me dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais être un changeur d'atmosphère. Dans mon lieu de travail, Seigneur, je vais changer l'atmosphère. Peut-être là où il y a la critique, je vais amener l'encouragement. Là où il y a le deuil, je vais amener la joie. Et nous sommes chacun d'entre nous des changeurs d'atmosphère. Là où tu es, que tu restes chez toi pour t'occuper de tes enfants, que tu ailles au travail ou pas, que tu sois dans ta famille, que peu importe où tu es, tu peux changer l'endroit où tu es. Par un sourire, par un encouragement, par une parole. Vraiment les amis, soyons sensibles parce que le Saint-Esprit veut parler et veut changer l'endroit où nous sommes. Et un petit exemple perso, pas plus tard que vendredi soir, j'ai eu Gabriel Morin. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ami à moi qui est sur Nîmes et qui est venu deux fois donc, aux soirées Ciel ouvert nous accompagner gracieusement enfin, nous conduire dans la louange. Et puis on a, et puis on a passé des super temps. Hein, pour ceux qui étaient là, vous serez d'accord avec moi. Et puis il m'a appelé, parce qu'on s'appelle régulièrement pour s'encourager, tout ça. Et puis il m'a appelé pour m'informer qu'il venait de décrocher son CDI. Donc il était tout content parce qu'on avait vraiment prié pour ça, parce qu'il avait un entretien assez costaud. Et il a été encensé par son chef qui lui a fait donc son entretien, qui lui a dit vraiment: Gabriel, ton entretien a été au top, ce que tu as fait c'était super, c'était fidèle à toi-même, tu es plein de droiture, enfin vraiment presque on aurait dit qu'il était chrétien, parce qu'il a vraiment encouragé, il a félicité. Et alors qu'on remerciait le Seigneur, on était heureux parce que waouh, c'était un bel accomplissement pour lui, c'était une belle réponse à nos prières. Il allait conduire la louange dans une soirée louange sur Nîmes, et j'ai vraiment remercié le Seigneur pour ce CDI. Et puis il m'a dit: écoute, prie pour moi, parce que voilà, j'ai cette soirée louange et j'ai besoin d'être encore rempli. C'était voilà, avec cet entretien, tout ça, ça a été beaucoup de stress. Et donc j'ai commencé à prier pour lui, prier pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Et à ce moment-là, alors que moi j'étais au fin fond de l'Ardèche, lui était à Nîmes, le Saint-Esprit est tombé sur nous vraiment comme une douche. On s'est mis à rire vraiment dans l'esprit, touché par la grâce de Dieu. Et vous savez, quand la parole dit que celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, et bien je peux vous dire que ces fleuves d'eau vive nous ont emportés. Et on a senti vraiment, waouh, cette présence de Dieu. Et quand on est sorti vraiment de ce téléphone, lui pour sa soirée louange, moi pour rentrer chez moi et puis m'occuper de ma famille, je peux vous assurer qu'on était prêts à abattre n'importe quel arbre, n'importe quel mur, parce qu'on était remplis de la présence de Dieu. Et je m'en rappelle, parce que c'était pas plus tard que vendredi, mais je dis: mais Seigneur, mais quand ta présence est là, mais on est prêt à tout. Et j'ai réalisé, je dis: mais Seigneur, on a besoin de tellement plus de foi, d'être rempli de toi, que ces fleuves d'eau vive ne nous quittent jamais, ou plutôt que nous ne quittions jamais ces fleuves d'eau vive, parce qu'ils sont là en nous, ils coulent, mais je pense qu'on a besoin de passer notre temps, enfin, de régulièrement déblayer le terrain, enlever les petits rochers hein, qui vont un peu baisser le débit d'eau, mais le ruisseau de Dieu est plein d'eau et il veut couler. Alors, les amis, revenons à la source, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est l'impact du Saint-Esprit en nous, une autorité surnaturelle sans peur, comme je l'ai dit. La guérison de ce paralytique de naissance a donc eu comme répercussion le salut d'environ 2000 personnes. Mais ce n'est pas tout. Les versets d'après, dans Acte 4, nous précisent que les apôtres sont emprisonnés pour la nuit et qu'ils sont amenés à s'exprimer devant les chefs du peuple et les anciens d'Israël le lendemain. Et donc, si vous allez au verset 8, dans Acte 4, il est dit: « Alors Pierre, et donc c'est important, une fois de plus, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël. » Donc, bien comprendre que là, Pierre ne s'adresse pas au peuple, mais s'adresse vraiment au chef du peuple, aux scribes, aux pharisiens, ceux qui enseignaient le peuple, ceux qui étaient un peu aussi, là, je dirais, en quelque sorte la police, hein, c'est vraiment ceux qui faisaient régner l'ordre, les autorités, merci, je cherchais le mot. Et il s'adresse avec assurance et il dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir était avec Jésus. Et c'est important de se rappeler, avant le départ de Jésus au ciel, de se rappeler que c'est ce même Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Et c'est pourtant Pierre qui, avant de renier Jésus, alors que Jésus leur annonce qu'il va être crucifié et qu'il va être mis à mort, rappelez-vous, Pierre d'un coup s'élève: quoi ? Non, Seigneur, si il faut mourir avec toi, moi, je te renierai jamais. Et là, Jésus dit: ah bon ? Eh bien, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et on voit une énorme différence entre le Pierre d'avant la Pentecôte, qui était, je veux dire, plein de... Vous savez, des fois, comme nous, on dit « Oui, mais si, on va y arriver !» Vous savez, donc on essaye de se motiver, c'est la positive attitude, quoi. Mais alors, c'est vrai que ça marche, sauf que quand on se retrouve devant notre obstacle, devant notre épreuve, gla, 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 gla. Et moi, plusieurs fois, ça m'arrive, je suis très positif de nature, je dis « Ah, si, on va y arriver !» Puis du coup, je dis « Oulala, tout compte fait, je suis pas sûr que ça va le faire !» Et Pierre, c'était un peu ça. Et donc lui, il était très fougueux, très « Oui, mais si, on va y arriver, Seigneur. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. » Tu parles. Quand on lui a dit trois fois « Mais si, toi, je t'ai vu, là. Tu étais avec Jésus. » « Ah, moi ? Non, 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 pas moi, pas moi. Si, 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 je me rappelle. Hein, non, 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 non. » Et Pierre, trois fois, a dit « Non, 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 non. Même, je jure que je n'ai jamais été. » Donc, il est même allé jusqu'à jurer qu'il n'a jamais été avec Jésus. Et là, le coq chante. Et rappelez-vous qu'il pleure amèrement. Ça, c'était le Pierre d'avant. Et là, on voit un Pierre qui peut être mis à mort. C'est vraiment ça sur ça que je veux insister. C'est qu'il parle devant les chefs qui peuvent le faire comparaître. Alors, bien sûr, il y a une procédure, mais qui peuvent, comme pour Jésus, comme pour d'autres, le faire mettre à mort. Et pourtant, il parle avec assurance. Et c'est fou parce qu'il dit, je reprends juste les mots, parce qu'il dit, sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Donc il est même en train de les accuser, de dire « Vous avez crucifié, mais il est ressuscité. » Et donc il est en train de les accuser, mais il parle inspiré par l'Esprit. Et là, Pierre n'a plus peur de mourir. Parce qu'il sait et parce qu'il a compris qu'il n'est que de passage sur cette terre. Comme vous et moi, on n'est que de passage, les amis. Et n'ayons pas peur de ceux qui peuvent tuer. Mais plutôt, comme le dit la parole, ayons peur de celui qui peut envoyer notre âme dans le feu et les flammes. C'est ce que nous dit la parole. C'est lui que nous devons craindre. Et chanter vraiment qu'on vit dans un temps, des fois, avec tout ce qu'on entend à la télé, où ça peut faire peur. On dit « Ah, mais Seigneur, j'ai peur d'être dans une attaque terroriste. Seigneur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Mais moi, je veux vraiment vous encourager cet après-midi. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur, les amis, de ceux qui peuvent simplement nous tuer, enlever notre... nous enlever d'ici parce que nous avons la vie éternelle. Craignons Dieu parce que lui, il nous offre la vie éternelle. Lui nous offre la vie en abondance. Et Pierre, à ce moment-là, il a compris ça. Donc il a compris que Seigneur, s'il faut aller jusqu'au bout, mais j'irai. Et ça me rappelait aussi ce que je lisais. Alors Paul, donc ça, vous le verrez quand vous le lirez dans les derniers chapitres d'Actes. Paul, il sait, parce qu'il a reçu plusieurs prophéties d'Agabus et puis d'autres prophètes qui ne sont même pas mentionnés dans la parole, Paul, on lui a dit plusieurs fois qu'il allait mourir à Rome. Et il est sur le point de prendre le bateau et il s'adresse aux disciples qu'il a vus plusieurs fois et il dit, ben voilà, je sais maintenant que je ne vous reverrai plus, car le Seigneur m'a appelé à témoigner à Rome et à y mourir. Et là, les disciples, ben c'est normal, pris d'émotion parce qu'ils aiment Paul, ils disent mais Paul, n'y va pas, n'y va pas. Un peu comme Pierre, lorsqu'il a voulu faire ça à Jésus, il a dit, mais non, n'y va pas. Et Paul dit, mais quoi? Vous voulez me détourner de la volonté de Dieu? Non, j'irai. J'irai parce que Dieu m'a appelé à témoigner à Rome. Et je nous lance cette petite question, et je me la pose à moi. Est-ce que si Dieu nous appelait à aller à Valence, pour témoigner au maire, témoigner au préfet, témoigner au président peut-être de la République, vraiment qu'un réveil puisse démarrer à Valence, mais peut-être quitte à laisser notre vie, est-ce que nous serions prêts à le faire? Et c'est une question en l'air, mais de dire ce qui compte, c'est pas de garder notre vie, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que tous, un jour, à moins que Jésus revienne, nous mourrons. Mais nous mourrons, c'est-à-dire que qu'en partie, puisque nous avons la vie éternelle et nous ressusciterons, comme le dit la parole, nous héritons de la vie éternelle. Donc n'ayons pas peur de mourir, n'ayons pas peur de toutes ces nouvelles alarmantes que nous pouvons entendre, mais nous, reposons-nous sur celui qui donne la vie et qui tient tout entre ses mains. Et même si tout part en vrille, nous savons que lui ne chancelle pas, que lui tient bon et qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Troisièmement, élargissons l'espace de notre tente pour voir le Saint-Esprit agir. Petit rappel, Jean-Baptiste dans les évangiles a ouvert le chemin à Jésus, car il invitait le peuple à se repentir de ses péchés. Alors, rappelez-vous, il disait, donc il était dans le désert, Jean-Baptiste, et il disait repentez-vous et changez de comportement. Hein, Matt aussi nous en a parlé, se repentir, c'est pas que demander pardon, c'est changer de comportement, changer de façon de penser. Changez de comportement et faites-vous baptiser d'eau comme signe de changement. Et Jean-Baptiste a aussi dit par la suite, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est ce baptême du Saint-Esprit et de feu que les disciples ont reçu lors de la Pentecôte et qui est disponible pour chacun d'entre nous. Et je fais une petite aparté, parce que des fois, donc, on prend tout pour acquis, mais peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez jamais été baptisés du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire être baptisé du Saint-Esprit ? Quand on reçoit, quand on se convertit, bien sûr que le Saint-Esprit habite déjà en nous. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, souvent c'est comme si cette petite flamme devient un brasier. Et alors qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est comme si de la tête aux pieds, il y a comme un feu qui nous dévore. Et là, rien ne peut nous arrêter. Et ce feu, comme je l'ai dit précédemment, a besoin d'être continuellement entretenu. Mais nous avons tous besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Et on voit dans les Actes, et vraiment relisez-le, que pour Corneille, à chaque fois que quelqu'un s'est converti, à chaque fois, le Saint-Esprit est tombé. Ils ont imposé les mains et ils ont baptisé du Saint-Esprit. Et ils commençaient à parler en langue, à prophétiser, ils commençaient à annoncer l'évangile. Et c'est là que le réveil y est venu, que des choses extraordinaires se sont passées. Donc c'est important vraiment, je prierai pour ça, donc qu'à la fin, pour peut-être ceux qui n'ont pas été baptisés encore du Saint-Esprit ou qui ont envie d'être renouvelés parfois. Moi je sais que ça m'était arrivé des fois, donc on a fait ça quand on était petit, plus jeune, et puis c'est comme si tout s'est un peu endormi, c'est comme si les braises se sont un peu éteintes. Mais le Seigneur veut ressouffler, le Saint-Esprit veut souffler sur ces braises, waouh, pour que ce brasier brûle à nouveau. Élargissons l'espace de notre tente. Verset 14, toujours dans Acte 4. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, hein, donc c'est les chefs juifs de Jérusalem, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferions-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. » Donc c'est important vraiment, je l'ai souligné en gras, et nous ne pouvons pas le nier. C'est-à-dire qu'ils savent que tu as un miracle. Donc, ils sont d'accord de dire qu'il y a un miracle qui a été fait. Mais, plutôt que de dire, mais convertissons-nous, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et là, les amis, moi, j'ai été stupéfait. Je me disais, mais je ne leur jette pas la pierre, hein, j'aurais peut-être fait pareil. C'est qu'ils étaient tellement dans leur truc, tellement de dire, voilà, Jésus, Dieu, pardon, le Messie doit venir comme ci, comme ça ou quoi, alors qu'ils voient qu'il y a un miracle, alors que Pierre annonce Jésus, qu'ils ont entendu l'évangile, qu'ils ont vu des miracles, qu'ils ont vu des choses, plutôt que de se dire, mais peut-être que c'est vrai, peut-être, tiens, peut-être, il faut que je peut-être, comme, j'ai oublié le pharisien qui allait voir Jésus, Nicodème, voilà, qui s'est dit, tiens, je vais aller poser des questions à Jésus, voir un peu qu'est-ce que c'est. Non, non, là, eux, carrément, oui, on reconnaît qu'il y a ce miracle, mais on leur interdit d'en parler et on ne veut rien savoir. Ils étaient complètement aveuglés, leur cœur était endurci, comme le dit la parole. Mais ça peut nous arriver à tous. Moi, pendant des années, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur. Il y avait les manifestations du Saint-Esprit, et il y avait tout ce qui était guérison, tout ça, c'était, vous savez, lorsqu'on est déçu des fois parce qu'on prie pour quelque chose, donc on prie pour une guérison, ça n'arrive pas, et donc on se ferme. On dit, ben non, Dieu ne guérit pas, c'était il y a 2000 ans. Et moi, personnellement, j'étais un peu fermé, puis je pense un peu amer par différentes choses que j'avais pu vivre. Et on était à une semaine biblique à Gagnères, pour ceux qui connaissent, dans le sud, là où il fait encore très beau. Et j'ai répondu à un appel pour ceux qui avaient mal au dos. Moi, donc à l'époque, dès que je faisais du foot ou du tennis, pourtant je n'avais que 20 ans, mais très souvent j'avais mal au dos. Et donc, je réponds à cet appel pour le mal de dos. Et ce prédicateur, pour ne pas le citer, Terry Virgo, dit, eh ben voilà, souvent, quand on a mal au dos, c'est qu'on a une jambe qui est plus courte que l'autre. Et donc, il nous fait tous asseoir. Donc on était une quinzaine, voire 20. Et donc, ça arrive à moi. Et puis, donc, et donc il allonge mes deux jambes. Et en effet, j'avais un écart comme ça, sans rire. Et donc il me dit, si tu as mal au dos, c'est parce que tu as cet écart-là. Il dit, je vais prier pour que ta jambe repousse. Moi, franchement, j'y croyais pas du tout. Je ferme mes yeux comme ça, il prie pour moi. Donc c'était cette jambe-là qui était trop courte. Et là, d'un coup, alors qu'il prie pour moi, je sens comme une chaleur et quelque chose qui tire en moi. Je m'en rappelle encore, c'était tellement marquant. Et 10 secondes après, il me dit, ben, amen. Et j'ouvre les yeux, et donc il me montre, et mes deux pieds étaient côte à côte, de la même longueur. C'est-à-dire que les centimètres qui me manquaient, ils étaient là. Et mes deux jambes étaient de la même taille. Et ça, je l'ai vécu. Et depuis, alors ça m'arrive des fois comme chacun d'entre nous peut-être à avoir des petites douleurs au dos, mais franchement, je n'ai plus mal au dos. Je peux le témoigner, Dieu m'a guéri. Et j'ai ma jambe qui a repoussé. Je sais que c'est ça. Gloire à Dieu, ça paraît fou. Mais Dieu m'a libéré du mal de dos et ma jambe a repoussé. Et ça, c'est un témoignage que je me suis dit, waouh, des fois on peut se fermer à certaines choses parce qu'on attend Dieu d'une certaine manière. On dit, non mais ça c'est sûr, c'est pas de Dieu. Mais qui sommes-nous, les amis? Qui sommes-nous pour dire que ça ou telle chose, c'est pas de Dieu? Bien sûr que nous sommes appelés avoir un jugement dans le sens de discerner les esprits, discerner qu'est-ce qui vient de Dieu ou pas. Mais je pense vraiment qu'on a besoin d'avoir cette ouverture et de rester humble, de pas dire oui parce que moi je sais que non, toi tu sais rien. Nous non, mais restons humbles, les amis, restons humbles, que Dieu se manifeste comme lui le veut. Et ça, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris, c'est que souvent on a des certitudes et c'est bien d'avoir la foi. Mais parfois on dit voilà, c'est tac, 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 tac. Et je sens que Dieu veut élargir l'espace de notre tente. Et ne soyons pas comme ces pharisiens, comme ces chefs religieux qui ont rejeté Jésus parce qu'il n'est pas venu comme ils le pensaient, sur un ânon, qui pensaient qu'ils allaient le délivrer de l'emprise romaine. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que Jésus est venu. Vraiment, soyons ouverts. Dieu vient. Et il y a ce beau verset dans Job 33, 16 qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. » Prenons-y garde, les amis. Prenons-y garde. Moi, je pense qu'on a besoin de venir devant Dieu avec pleine d'humilité. C'est-à-dire, Seigneur, si tu veux me parler dans le feu, ben, parle-moi à travers du feu. Si c'est à travers le vent, amen. Et si c'est à travers ce doux murmure qui ne fait pas de bruit là, cette paix qui vient, eh bien, amen. Mais simplement, pour vous donner un petit, comment on dit en anglais, tips, donc un petit repère pratique, c'est qu'on voit un arbre au fruit qu'il porte. Et si vous voyez quelqu'un qui est complètement par terre, qui est chamboulé, qui tremble même, et qui est visité par le Saint-Esprit et que sa vie est transformée, eh bien, amen. Même si on est choqué humainement parce que nous, on se dit, eh bien, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'est pas grave, que Dieu fasse son œuvre. Et que vraiment, jamais nous n'arrêtions le Saint-Esprit. Vraiment, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12 et 14, donc il est dit, comme il le veut, le Saint-Esprit donne comme il le veut, certains dons, certains à d'autres dons, Dieu comme il le veut. Et bien moi je dis, Seigneur, fais ce que tu veux en nous. Et on a besoin d'élargir l'espace de notre tente, de laisser vraiment le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Parce qu'il a des œuvres extraordinaires, des œuvres admirables, mais on a besoin de le recevoir. Alors soyons ouverts, les amis, parce que Dieu veut encore nous parler aujourd'hui. Et enfin, le Saint-Esprit à l'œuvre, un impact dans notre ville. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Boum. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On leur fait des reproches, hein, toujours, hein, ces chefs qui ont du pouvoir. Ne parlez plus de Jésus. Non. On ne peut pas parler. On ne peut pas ne plus parler de ce qu'on a vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ça faisait plus de 40 ans que cet homme boitait et il a été guéri. Dieu les a préservés et ils ont pu témoigner au peuple et même au chef. Tout cela est parti de la manifestation du royaume, une guérison d'un paralytique, d'un boiteux qui faisait l'aumône. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment, on est très, très chamboulé avec l'équipe dirigeante sur les pauvres et sur les SDF, tous ceux qui sont dans le besoin. Et on a des personnes qui, dans notre communauté, se lèvent pour prendre soin de ceux qui sont dans les rues de Montélimar, pour les SDF, pour ceux qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas un toit, et de savoir comment on peut bénir notre ville et bénir ces personnes-là. Et je me dis, Seigneur, si tu as fait ça pour un SDF, pour un mendiant boiteux dans les rues de Jérusalem, je pense, Seigneur, que tu peux faire la même chose pour un SDF qui peut être dans les rues de Montélimar. Et je sens vraiment que Dieu veut nous rappeler de ne pas regarder aux apparences, de ne pas forcément aller vers ce qui brille. Mais Jésus est venu, et comme l'a dit le prophète Ésaïe, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien pour attirer le regard. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il n'avait rien pour attirer le regard. Et quand on va vers ces personnes qui ne pourront jamais nous le rendre en retour, et bien quand on donne à manger à ces SDF, c'est comme si on le faisait à Jésus. Et je crois vraiment, et je le sens, alors que là, je vous le dis, je sens l'esprit vraiment que c'est qu'en prenant soin des pauvres, on va manifester le royaume de Dieu. Et nous allons être des témoins pour les chefs de Montélimar. Nous allons être des témoins pour les habitants de Montélimar. Et qui sait s'il n'y a pas 3000 personnes qui vont se réunir autour du prochain boiteux mendiant dans le jardin public de Montélimar qui sera guéri et qu'on va pouvoir annoncer l'évangile et que des dizaines et des centaines et des milliers de personnes vont se donner à Christ. On a besoin de ça, les amis, de voir vraiment des personnes transformées, guéries. Mais ce ne sera pas forcément des personnes bien portantes, ce sera des personnes qui sont dans ce jardin, peut-être en face, et qui attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne leur tendre une main. Et je sentais vraiment qu'on avait cette mission en tant qu'Église Connect d'aller vers les pauvres, d'aller vers ceux qui souffrent, d'aller vers ceux qui ont tant besoin de l'amour de Dieu, mais peut-être tant besoin d'être guéris et tant besoin d'avoir à manger. Alors, allons, ne méprisons pas les petits commencements, parce que je sens que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va restaurer leur santé, mais aussi leurs conditions. Et si ces actes d'amour auprès des SDF, auprès des plus pauvres, des plus démunis, étaient un témoignage pour tout Montélimar ? C'est une question avec un point d'exclamation. Et pour finir, puis Pierre et Jean retournèrent voir les disciples et leur racontèrent tout ce qui s'est passé. Puis ils élevèrent leur voix ensemble et prièrent ainsi. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et c'est ce que Dieu veut faire encore ce soir. Dieu veut nous remplir. Dieu veut que ce brasier, que cette flamme qui est en nous brûle, les amis. Brûle du feu de l'Esprit pour parler avec assurance, pour aller au nom de Jésus-Christ, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il règne encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment prendre un temps de prière pour deux catégories de personnes, pardon. Déjà pour ceux qui sont malades. Dieu guérit encore aujourd'hui. Si tu, comme moi, tu crois que c'était qu'il y a 2000 ans, je veux vraiment te dire, Dieu guérit encore aujourd'hui. Et il va le faire. Et j'aimerais simplement que tous ceux qui sont malades puissent se lever. Peu importe ce que c'est, le dos, les pieds, peu importe. Parce que Dieu va guérir ce soir, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il y a des gens malades ? Personne ? Debout. Dieu va vous guérir. Et ce n'est pas moi qui vais le faire. Et je veux juste inviter ceux qui sont autour à juste se mettre autour et on va prier ensemble pour la guérison. Et c'est très simple. Comment on prie ? Je vous le dis, donc on ne dit pas « Seigneur, s'il te plaît ». Il a dit guérissez les malades. Au nom de Jésus-Christ.